Bonjour, c'est Lucie, c'est le début de l'émission d'information locale et au sommaire aujourd'hui, l'info du jour. Braise alternant, ce sont 50 événements organisés dans la région durant la semaine. Un reportage réalisé lors d'une proposition dans le cadre du parcours d'écologie populaire à Rennes. Il y aura de la musique, dont une nouveauté, la carte blanche santé mentale par ses usagers, c'est Plus on est de fous, 6e épisode. Et puis une recommandation, un mardi de l'espace des sciences pour décrypter le rire. Bienvenue dans l'arène.
Et maintenant, on va retrouver Bobonne, les mots croisés et la radio.
La beauté d'une voix, c'est qu'elle remplit seule une salle immense.
Restez une minute, je vais vous parler.
Je vous écoute.
Bientôt, l'heure de la révolution nationale sonnera.
Et vive la reine !
Vive la reine !
Allez, on commence avec l'info du jour retenue pour vous. La première édition de Braise Alternance, un événement porté par Pôle emploi et des partenaires comme l'État évidemment, mais aussi l'association Cap Emploi et l'association régionale des missions locales. Ça se passe dans la région depuis ce lundi 22 mai jusqu'au vendredi 26 et 50 événements sont prévus. Job dating, témoignages, mais aussi présentation de filières et métiers ou encore porte ouverte d'entreprise. Un objectif est annoncé, c'est de faire découvrir la alternance aux jeunes et aux demandeurs d'emploi, mettre en lumière aussi les entreprises qui y sont engagées. 837 000 nouveaux contrats d'apprentissage ont été signés au cours de l'année 2022 dans le public mais aussi dans le privé, rappelle Pôle emploi, un chiffre qui est en progression de 14% par rapport à l'année précédente, avec cet avantage qui est mis en avant. Deux alternants sur trois ont un travail 6 mois après leur apprentissage. Alors, exemple de manifestation organisée durant la semaine, un atelier alternance et handicap, ça c'est mardi 23 mai à 9h chez Pôle emploi à Rennes, ou encore un forum emploi là organisé à Cesson-Sévigné tout près de Rennes. Rendez-vous pour le découvrir, ce forum emploi, à la salle Paul Janson, mercredi 24 mai de 9h à 17h. L'ensemble de la programmation de Braise Alternance est à retrouver en ligne sur le site paul-emploi.fr. Allez, après cette info du jour, c'est l'heure d'un reportage. Alors, depuis le mois de décembre 2022 et jusqu'à ce mois de juin, un collectif composé de plusieurs associations écologistes, mais aussi antiracistes et féministes, propose ensemble un parcours d'écologie populaire. Ça se passe dans le quartier de Maurepas, quartier prioritaire de la ville. Reportage d'Elvire Moreau, notre volontaire en service civique, à l'occasion d'un après-midi sur le thème de l'écologie décoloniale. Le nom de l'événement, les dingueries de la Terre.
C'est Jérémy, je fais partie du CRIDEV, qui du coup est une association d'éducation populaire et politique. Alors aujourd'hui, c'est les dingueries de la Terre. En fait, là, on est sur l'Agora du Clair des Tours, juste à côté du pôle associatif Marbeudet, du coup à Maurepas, au niveau de la station de métro Gros-Chêne. C'est une journée, je veux dire, d'éducation populaire autour des questions d'écologie décoloniale, racisme environnemental, mémoire autour du marronnage, où il va y avoir plein d'ateliers différents, donc des ateliers d'expression populaire, des projections de court-métrage, il y a la visite du jardin de Jamal, un habitant du quartier. Ce soir, du coup, à 18h, il va y avoir la conférence des deux intervenants, Sumboy Vrainon et William Hacker.
Et les dingueries de la Terre, du coup, ça s'inscrit dans le cadre de Rennes au pluriel et ça s'inscrit aussi dans un parcours d'écologie populaire. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est que le parcours d'écologie populaire ?
Le parcours d'écologie populaire, c'est un parcours qui a commencé à se mettre en place à partir de décembre 2022. Et du coup, en gros, on se retrouve tous les mois avec plusieurs rendez-vous. On a fait des ciné-débats, des causeries, des soupes rebelles, des visites de jardins ou des balades comestibles en lien du coup avec l'association Lanette à Thorigné-Fouillard.
Et du coup, qu'est-ce que c'est que l'écologie populaire ?
Pour faire simple, c'est une écologie qui ne va pas être dans la culpabilisation des individus.
Comment est-ce que s'est construite cette réflexion-là, et particulièrement dans votre association ?
Alors nous, du coup, au CRIDEV, en fait, on fonctionne par chantier de bénévoles. Et il y en avait un sur les écoféminismes. Et au fur et à mesure de la réflexion, on s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas y avoir d'écoféminisme ou même de féminisme tout court sans les questions décoloniales. Et en fait, on s'est renseigné sur tout un tas de personnes qui en parlent, quoi. Fatima Wassak, Myriam Bahafou, Malcolm Ferdinand, Sam Boy Vrenon, William Acker qui sont là aujourd'hui. Nous, au CRIDEV, au début, on était plutôt à lire des extraits de textes, d'articles ou écouter des podcasts. Et en fait, on a entendu parler qu'en parallèle de nos réflexions, y avait déjà en fait Extinction Rébellion, Front de Mer et Cœur Esquem qui avaient commencé en fait à organiser des projections, notamment autour du film Décoloniser l'écologie. Et en fait, quand on a vu qu'il y avait ça qui se passait, on s'est dit, ah ben, trop bien, en fait, il y a d'autres assos qui sont sur les mêmes questions que nous en parallèle. Du coup, on est entrés en contact. Et en fait, c'est de là que c'est parti.
L'événement, du coup, d'aujourd'hui, c'est un des derniers du parcours d'écologie populaire. Ouais. Maintenant, au terme de cette fin d'année, c'est quoi le bilan pour vous ?
Bah alors du coup, vu que c'est pas tout à fait terminé, le bilan est pas encore forcément évident. Il va y avoir le prochain événement, du coup début juin, c'est le braquage de la fête des mères, le week-end du 3 et 4 juin, avec un programme assez chargé et beaucoup de choses à faire. On n'a pas encore eu le temps de faire un bilan collectivement, mais moi à titre personnel, je suis plutôt satisfait. On a quand même eu l'énergie de faire beaucoup d'événements, de tenir une régularité, ce qui n'est pas forcément tout le temps évident dans les gros parcours comme ça. En fait, c'est quelque chose qui se construit sur le temps long. À la fois, on est satisfait et à la fois, on sent qu'il y a encore tellement de choses à faire. Et peu à peu, les gens entendent parler, commencent à situer ça dans le paysage associatif du quartier et commencent peu à peu à venir, à faire tourner l'info.
Alors moi, je suis Briseis. Moi, j'habite dans le quartier. Aujourd'hui, moi, je vais aider à animer le ciné-débat. On va projeter du coup trois petites vidéos de 20 minutes environ et en discuter avec les personnes qui viendront. Aujourd'hui, dans l'écologie mainstream, on parle beaucoup de la responsabilité individuelle, comment on doit changer notre consommation. Et nous, on pense que c'est pas du tout une voie qui est pertinente. D'une part parce que en fait, on n'a pas du tout les mêmes conditions de vie en fonction de notre classe. Et si on vient des quartiers populaires, c'est juste impossible d'arrêter d'utiliser la voiture, d'arrêter de manger, enfin d'essayer de manger bio et tout ça, on n'a juste pas les moyens. Et pour moi, le lien qu'il va y avoir entre l'écologie et les quartiers populaires, c'est que, en fait, c'est les personnes des quartiers populaires, c'est les premières qui vont subir toutes les conséquences du dérèglement climatique et les problèmes de famine qu'il va y avoir avec la crise écologique. Et du coup, en fait, c'est les premiers concernés. Et aujourd'hui, l'écologie, c'est vraiment très blanc. Et c'est la classe moyenne qui en parle et qui en parle, à mon avis, pas de manière pragmatique. Parce que pour moi, en fait, ce dont on a besoin, c'est de créer un rapport de force. Et pour ça, on a besoin d'être un mouvement de masse. Et si on reste avec juste la classe moyenne, c'est pas possible déjà. C'est difficile de s'intéresser aux questions d'écologie quand dans notre vie, on est obligé de trimer pour essayer de se nourrir. Et du coup, on s'est dit peut-être que si on essaye de manger ensemble et de manière gratuite, avec aussi des partenariats avec les paysans qui sont autour de Rennes, et bien que ça pourrait faciliter les échanges derrière.
Je m'appelle Léa et je travaille au GRPAS, ça veut dire le groupe rennais de pédagogie et d'animation sociale.
Et aujourd'hui, donc, au Dinguerie de la Terre, qu'est-ce que vous allez faire ?
Il y a un atelier cuisine sur lequel on est avec les enfants, parce qu'il y a un grand repas gratuit ce soir pour tout le monde, avec un moment un peu plus festif après les discussions et les conférences. Voilà, donc nous on est là-dessus parce que tout au long de l'année on a préparé des soupes et des repas comme ça sur le même format, gratuit et pour distribuer à tout le monde avec les enfants. Ça permet de poser la question de comment on s'alimente avec les enfants et de comment on peut s'alimenter à pas très cher aussi et en se fournissant en fruits et légumes locaux. Donc on est allé beaucoup sur les marchés mais on a aussi travaillé avec une maraîchère du coin. Donc voilà, c'est un peu une sensibilisation autour de l'alimentation et de questionner un peu le lien entre écologisme, alimentation et puis solidarité aussi, le fait de pouvoir distribuer ça à tout le monde et le fait de faire de la récup, ça permet aussi de pouvoir faire des repas gratuits. Aujourd'hui, la recette, c'est un grand taboulé avec des légumes et des crudités récupérés sur les marchés ou auprès de maraîchers. Voilà, et un dessert et une salade de fruits.
On va cuisiner.
On va faire un peu de légumes.
On va cuisiner.
Légumes, on va les cuisiner.
Ouais.
Et on va cuisiner genre une sorte de couscous qui se mange froid, avec des légumes, plein de légumes à l'intérieur.
Et aussi, en sortant de l'école, on était parti aller chercher des légumes au marché de Saint-Germain. Bah, on a demandé, on a eu tout gratuit. On a eu plusieurs légumes, en fait.
Oui.
Alors, je m'appelle William Acker, je suis délégué général de l'Association nationale des gens du voyage citoyen, qui est une association de défense et de conseil aux gens du voyage. Je suis juriste, j'ai mené des travaux de recherche notamment sur les questions des pollutions et des inégalités environnementales qui touchent les voyageurs, et je suis moi-même voyageur.
Bonjour, moi je m'appelle Sumboy, vrai nom, et je tiens une chaîne YouTube, Instagram, TikTok qui s'appelle Histoire Crépue, sur laquelle je fais de la vulgarisation d'histoire coloniale française.
Aujourd'hui, vous participez à une conférence dans le cadre des Dingueries de la Terre. Cette conférence, elle s'appelle « Du marronnage pendant l'esclavage aux résistances des gens du voyage aujourd'hui, quel continuum historique et contemporain ?» Est-ce que vous pouvez peut-être nous présenter un peu cette conférence et de quoi il va être question ?
Alors, l'idée, c'est de croiser deux regards, deux champs de recherche, en fait, sur deux sujets qui, a priori, sont complètement différents, qui interviennent dans des sphères géographiques différentes aussi, mais qui se recoupent sur beaucoup d'aspects, puisque les traitements qui sont appliqués aux gens du voyage dans les politiques publiques depuis plus d'un siècle en France, en fait, sont largement inspirés et ont largement inspiré aussi d'autres traitements ailleurs, dans d'autres territoires, et notamment les territoires post-coloniaux. De la France et ce qu'on appelle aujourd'hui les territoires d'outre-mer notamment.
Et c'est vrai qu'il y a des questions qui sont extrêmement importantes dans à la fois les questions des voyageurs et à la fois les questions des immigrations post-coloniales, mais qui sont les questions de race en fait, de racialisation. Et du coup, c'est des enjeux qui traversent tout ce type de politiques qui ont été mis en place à la fois par rapport aux voyageurs et par rapport aux immigrés ou descendants de l'immigration post-coloniale ou même des personnes qui vivent actuellement dans les outre-mer et qui ne sont pas forcément dans des parcours d'immigration. En fait, quand on parle d'écologie, on pense surtout au futur. Bah voilà, on est en train de détruire le monde dans lequel on vit. On est en train de menacer le vivant et on est en train d'aller dans un mur, mais on fait rien pour changer de trajectoire. Mais en fait, je pense qu'une des raisons pour lesquelles on a du mal à changer de trajectoire, c'est parce qu'on n'arrive pas à comprendre d'où on part, en fait, en matière de destruction du vivant. L'intérêt de regarder l'histoire de la destruction du vivant, c'est que ça nous permet de voir que, certes, il y a le modèle capitaliste qui est le moteur, qui est la source de la destruction du vivant, mais ce modèle, il se construit à un moment précis, à la période coloniale, au moment où, on va dire, le capitalisme occidental et les modes de production occidentaux se déploient, voilà, partout dans le monde. Et donc, ils vont se déployer notamment dans les Amériques. Au début, c'est de l'extraction d'or, de métaux précieux, etc., vers l'Europe. Il y a aussi des plantations. Et du coup, pour moi, c'est extrêmement important de penser écologie décoloniale parce que ça nous force à regarder vers le passé et vers cette histoire et ça nous force à trouver des solutions qui sont pas que de la protection de ce qui est encore vivant mais qui sont aussi changer nos manières d'approcher la production, le déplacement de matières premières ou d'êtres vivants sur la planète. Enfin voilà, plein de choses qui sont liées à l'histoire coloniale. Moi, je pense qu'un des objectifs qu'on a, déjà de rendre curieux les gens et curieuses à ces questions, déjà donner des outils aux gens pour commencer à se familiariser avec ces questions, que ça rebondisse aussi dans leur expérience personnelle ou avec des réflexions qu'ils ont déjà eues. Et à partir de ça, nouer un dialogue et en espérant que ça donne envie aux gens de continuer à travailler sur ces sujets, de eux-mêmes penser des collectifs ou des projets dans ces directions. En fait, on peut ouvrir dans plein de directions et on peut toucher plein d'autres choses que ce qui est aujourd'hui labellisé écologie.
L'idée aussi d'intervenir comme ça hors de Paris, hein, c'est d'intervenir dans des territoires qui sont et auprès de personnes qui sont susceptibles ensuite de créer des luttes locales, parce que l'enjeu, il se situe aussi au niveau du local et notamment au niveau de la conception des villes. De l'extension des villes, de comment on intègre des populations marginalisées jusqu'alors et comment on les intègre dans une perspective de justice environnementale. Et c'est là que le bât blesse, c'est que la justice environnementale, pour qu'elle fonctionne, en tout cas pour qu'il y en ait, il faut évidemment que les différentes populations qui sont marginalisées et qui subissent de plein fouet les inégalités environnementales puissent se rendre compte qu'elles ont une condition commune et à partager et puissent travailler ensemble. C'est pour ça que moi j'interviens. C'est pour, souvent aussi pour dire, bien finalement, vous voyez, l'aire d'accueil de Rennes, les deux aires d'accueil à Rennes, personne ne les connaît. Et il faut rentrer dedans, il faut aller voir les voyageurs, il faut leur parler de ces questions-là, parce que en fait, la lutte se fait aussi avec eux. Et c'est comme ça en fait que la conception des villes avance. J'espère en tout cas essaimer et en planter des graines dans les esprits pour que des collectifs se forment en local. Et ça a déjà été le cas, d'après mon expérience, sur certaines luttes avec des aires d'accueil et des luttes écologistes locales qui ont commencé à intégrer les populations des aires d'accueil, mais aussi qui intègrent des populations, par exemple, des quartiers prioritaires, des populations roms, des populations qui vivent en bidonville, des populations sans domicile fixe aussi, des populations qui vivent en habitat léger, enfin... Il y a énormément de populations marginalisées qu'on ne voit pas et qui doivent être les premiers acteurs de la justice environnementale parce qu'il ne peut pas y avoir d'écologie sans justice sociale. Les deux vont de pair et il ne peut pas y avoir d'écologie non plus, du coup, sans justice entre guillemets raciale.
Peut-être que j'ajoute une dernière chose, c'est que là, on est dans un quartier, donc le quartier de Maurepas. En fait, l'objectif, c'est aussi de se dire, moi, je ne veux pas personnellement que les gens entrent dans les mouvements écolos traditionnels forcément, et je veux pas non plus forcément que les mouvements traditionnels fassent entrer des gens dedans, mais je veux que les gens qui sont concernés, qui sont dans ce quartier, ou les gens qui sont sur les aires d'accueil, eux-mêmes portent leur propre lutte écologique, et que en fait, du coup, ils aient les outils pour dire voilà ce qu'on pense qui est une écologie qui nous convient, voilà les termes ou les manières de faire que nous considérons écologiques, et que sur cette base-là, ils peuvent discuter avec d'autres groupes déjà organisés d'écologie. Et en fait, je pense que c'est ce genre de confrontation qui donne quelque chose de riche.
Je
c'était Gros Cœur et son Kawa, une nouveauté musicale repérée par Yann, notre programmateur musical ici à Canal B. Ce single, il vient de sortir et c'est un extrait de l'album Gros Disque à apparaître début octobre sur le label liégeois Jaune Orange. Alors Gros Cœur, ce sont quatre garçons bruxellois, un groupe lancé début 2022 et qui nous balance du gros rock psychédélique tropical. Ils seront sur la scène, tiens, du Crumble Fight Festival à Nantes le 3 juin prochain. Vous écoutez Canal B sur le 94.0 ou peut-être en ligne sur notre site canalb.fr où on passe tout de suite au deuxième contenu du jour. Et ce contenu, c'est une carte blanche qui est laissée à un groupe d'usagers dans le champ de la santé mentale. Ça s'appelle « Plus on est de fous ».
Bonjour tout le monde, c'est Beryl. Aujourd'hui, une nouvelle carte blanche, Plus on est de fous, dans l'émission L'Arène sur Canal B. Plus on est de fous est un collectif d'usagers de la psychiatrie qui réfléchit sur les troubles psychiques, sur leur prise en charge, mais aussi sur le regard porté sur eux. Le collectif essaye d'esquisser des pistes pour que nos liens avec les soignants et les structures institutionnelles s'améliorent et que le regard porté sur le mal-être psychique soit moins sévère et stigmatisant. Ce qu'on présente ici, pour résumer, c'est la lutte pour que nos paroles puissent enfin être entendues. Aujourd'hui, le titre de la carte blanche est « Rien sur nous, sans nous ». Il s'agit d'abord de s'intéresser à l'histoire du mouvement des usagers et à leur participation, puis de présenter un exemple plus local, mais unique, celui du groupe de travail « Participation citoyenne » du Conseil Rennais en santé mentale. Et enfin d'évoquer les GEM, ou groupes d'entraide mutuelle, et la place réelle qui est accordée aux personnes concernées. On vous présentera aussi deux initiatives militantes. Je suis en compagnie de Sarah et Yann pour cette émission. Vous pouvez vous présenter ?
Salut Beryl, salut tout le monde. Moi c'est Sarah, je suis artiste-auteur et intervenante pair.
Salut, c'est Yann. Donc, j'écris des articles sur la santé mentale à Rennes. Mes articles sont publiés sur le site internet InfoPsy Rennes.
Et toi, Beryl, t'as envie de te présenter ?
Donc moi, c'est Beryl, usagère en psychiatrie. Pour commencer, Sarah, selon toi, est-ce qu'on peut parler d'un mouvement participation usagée en France ?
Ben en fait, tenter de retracer l'histoire du mouvement des usagers de la psychiatrie en France, c'est mettre à jour tous les freins, tous les obstacles qui ont empêché et qui empêchent toujours les militants d'avoir accès au débat public et aux espaces de concertation et de décision concernant le devenir des personnes qui vivent avec la souffrance psychique et l'isolement social. Pour autant, cette histoire, celle des opprimés de la psychiatrie en lutte, reste entière à faire, nous en touchons aujourd'hui seulement les contours. Si le groupe Information Asile, formé par des patients et des soignants de l'antipsychiatrie en 1972, veut impulser un mouvement, les rares associations de défense des usagers qui ont émergé depuis ont toujours eu le plus grand mal à exister, à se fédérer et à se doter de moyens permettant d'installer un rapport de force avec les institutions. Ces assos, qui se comptent sur les doigts de la main et reposent sur les épaules de personnes souvent isolées, sont la cible de manœuvres politiques et de réappropriation et de récupération des pratiques de la part des institutions. Elles ont eu un impact modéré sur les avancées du droit, les avancées thérapeutiques et les mentalités. À l'inverse, le militantisme des familles de patients est omniprésent et doté de moyens puissants. S'il a permis des avancées notoires, ce déséquilibre invisibilise les préoccupations propres aux premiers intéressés. On est très loin du bouillonnement qui a permis l'émergence du modèle du rétablissement dans les pays anglo-saxons et ailleurs. Toutefois, en naviguant à contre-courant, elles ont permis d'impulser et de faire vivre des pratiques qui répondent à des besoins concrets pour les usagers. Ainsi, le cercle de réflexion et de proposition d'action sur la psychiatrie, fondé en 2010, poursuit le travail de recours contentieux et de jurisprudence autour de la contrainte et des atteintes aux droits des patients entamées par le groupe Information Asile. De son côté, l'association Advocacy France pratique et forme à la pair advocacy depuis 1996. La peer advocacy est une méthode de soutien à l'expression par l'intervention d'un tiers dans des situations d'exclusion, de ségrégation et de privation de liberté.
Et maintenant, tu peux nous en dire plus ?
Oui, depuis quelques années, nous ne cessons d'entendre et de lire dans les communications des structures de soins et d'accompagnement, dans celles des institutions et celles des associations de santé mentale, composées en majorité de professionnels, que la participation des usagers est au cœur de toute démarche. Nous affirmons ici qu'il s'agit au mieux d'une hyperbole, au pire d'un pur mensonge. Ce qui est vrai, c'est que nous sommes sollicités partout. Pour participer à l'organisation de la vie d'une association, pour représenter les usagers au sein d'une structure de soins, pour participer à l'élaboration de politiques territoriales ou à des journées de prévention ou de formation, la liste s'étend à l'infini. Nous sommes recrutés le plus souvent par cooptation. La cooptation, c'est l'invitation d'usagers déjà identifiés dans les réseaux d'acteurs. Cette présélection nous impose une sursollicitation permanente. À Rennes, nous sommes à peine une dizaine à recevoir des invitations constantes, ce qui pose des questions évidentes de représentativité, en plus de menacer notre équilibre et notre santé. Nous sommes censés arborer toutes ces casquettes en travaillant gratuitement, sans formation, sans moyens d'organisation propres, dans des espaces trop souvent inhospitaliers. S'il existe de trop nombreux endroits où nous sommes absents, la présence d'un usager suffit pour inscrire notre participation au cœur de la démarche. L'implication qualitative des usagers n'est jamais mesurée. Très souvent, les temps de construction et de restitution et de prise de décision nous sont confisqués. On nous veut en fait consensuels, dociles, interchangeables. Quand un réel débat démocratique appellerait une pluralité et une participation autonome et émancipée. Quand les partenariats devraient se baser sur les envies et les compétences propres à chacun. Pourtant, malgré ces constats nécessaires, ça commence à bouger du côté des usagers. Des fous, psychiatrisés, neuroatypiques. Les réseaux sociaux et les blogs collaboratifs et singuliers nous offrent des espaces où poser nos récits, nos coups de gueule, nos analyses et nos outils. On publie du zine, de la brochure, du roman. Il paraît même qu'on fait de la radio.
Et on s'amuse comme des fous.
Des collectifs se forment, en parallèle des institutions ou en autonomie. De nouvelles assos voient leur jour, avec une distribution du pouvoir plus équilibrée entre les usagers et les facilitateurs. D'autres assos se transforment doucement, à l'instar des groupes d'entraide mutuelle, dont Beryl vous dira quelques mots. Certains espaces institutionnels, encore trop rares, s'ouvrent aussi à d'autres pratiques, ce dont Yann va vous parler dans un instant. On est loin du mouvement, mais il y a de l'envie, des bruits de couloir et des pavés dans la mare. On explore la dimension collective de l'empowerment, ce processus à la conquête d'un pouvoir d'agir politique, pour mettre enfin sur le devant de la scène nos luttes pour nos droits, pour un accueil juste et respectueux de nos différences, nos luttes pour l'arrêt de la contrainte et de l'espace pour ceux qui pensent qu'il y a quelque chose à sauver de la psychiatrie, comme pour ceux qui pensent que tout le système est pourri. L'invitation ici pour nous, citoyens usagers de la psychiatrie, c'est de repenser nos engagements et refuser de nous éparpiller, et aussi quitter les espaces inhospitaliers. L'invitation aussi, c'est d'ancrer en nous que les seules personnes à qui nous nous devons de rendre des comptes quand nous occupons des fonctions de représentation, ce sont nos pairs. L'invitation, c'est aussi de réaliser nous-mêmes un état des lieux, une cartographie de nos engagements et de continuer de créer ensemble des espaces d'expression, de soutien et de formation entre pairs et de travailler à collecter et diffuser nos récits et nos travaux. Pour tous, l'invitation est de faire de l'espace à notre parole, d'accepter enfin qu'elle puisse être déstabilisante et avoir la volonté que nos actions soient transformatrices. Pour conclure, je reprends le credo de l'association Advocacy France. Le jour où des personnes peu habituées à parler seront entendues par des personnes peu habituées à écouter, de grandes choses pourront arriver.
Merci Sarah. On ne peut qu'espérer que l'étincelle continue de prendre. Yann, tu as un exemple local d'un espace où notre parole est plus entendue ?
Maintenant, je vais vous raconter l'histoire du groupe de travail Participation citoyenne. Ce groupe fait partie du Conseil Rennais en santé mentale, le CRSM. C'est une instance de concertation et de travail à Rennes s'occupant des questions de santé mentale. Il répond aux préoccupations et aux difficultés rencontrées par les acteurs du monde psy à Rennes. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble pour une meilleure politique de santé mentale sur le territoire rennais ? Et un problème qui a émergé fut la difficulté de la participation citoyenne des usagers de la psychiatrie. En effet, certains professionnels ont bien conscience que pour améliorer les dispositifs, il faut que les usagers s'emparent aussi de leurs affaires. Mais la participation active ne se décrète pas. Il ne suffit pas d'appuyer sur un bouton. Mais alors, que faire et comment faire ? La rencontre féconde de professionnels, d'usagers, de l'élu à la santé et du chargé de projet a fait naître une volonté de rassemblement pour s'emparer des questions sur la participation citoyenne des usagers à Rennes. Mais la volonté et les bonnes idées ne suffisent pas, il faut aussi des moyens. Dès lors, le petit groupe de personnes, intitulé « Groupe de travail participation citoyenne », a obtenu l'emploi d'un stagiaire pour réaliser ses auditions. Avec lui, en binôme, nous sommes partis à la rencontre de structures rennaises. Nous avions deux objectifs. Premièrement, mieux connaître le tissu associatif, médical et médico-social. Deuxièmement, rencontrer les gens, en les interviewant pour essayer de les associer à un projet collectif. Et l'expérience a été un succès, puisqu'une fois l'enquête terminée, nous avons invité, en grande pompe, toutes les personnes, physiques et morales, à une grande réunion à l'hôtel de Rennes Métropole. Et les personnes ont répondu présent. Même si par la suite, toutes les invitées ne restèrent pas dans le groupe, bon nombre s'engagèrent dans l'aventure. Pour faire fructifier cet élan, nous avons décidé d'une méthode. Partir des préoccupations des usagers. En outre, le groupe est caractérisé par trois points de vue et expériences différentes. Celle des usagers, des professionnels et des personnes de l'entourage. C'est la complémentarité et le respect mutuel qui permet à cette expérimentation de régénérer sans cesse et de trouver des points d'équilibre qui font l'identité du groupe. Au fil du temps, trois sous-groupes se forment. Un sur les représentations médiatiques, un sur l'emploi en milieu ordinaire et un troisième sur le bénévolat. Puis le groupe, non assujetti à des consignes politiques, évolue aujourd'hui sur les thèmes du rétablissement et de la communication.
Tu peux nous en dire plus sur l'évolution du groupe ?
À quoi sert un groupe de travail s'il ne se politise pas ? En effet, pour réussir, ne faut-il pas se concentrer sur quelques revendications et taper ensemble sur les mêmes clous ? D'année en année, de nombreuses idées ont émergé dans le groupe. Nous avons fait un document intitulé « Quelques pratiques favorables à la participation citoyenne ». Dans notre document, des choses très pratico-pratiques, comme faire des pauses toutes les heures, ou utiliser les techniques de mobilisation et d'animation de l'éducation populaire, et des choses plus subtiles, comme la prise en compte de la possible interprétation de certains usagers. Dès lors, les animateurs du groupe veillent à bien faire comprendre les choses, les décisions et les attendus. Pour ce faire, ils utilisent la technique de la réassurance. C'est-à-dire, concrètement, ils se forcent à répéter les décisions prises ensemble pour limiter au maximum les zones d'incertitude et les postures tacites. Le copilote, usager du groupe...
Psst, Yann, on a le droit de dire que c'est toi ?
Oui, c'est moi. ...utilise la technique du phoning, du téléphonage en français, pour écouter et maintenir le lien entre les usagers. Pour conclure, nous pouvons dire que l'aventure de GT Participation Citoyenne est assez unique à Rennes, voire en France. En effet, il a réussi à faire travailler ensemble, durablement, de nombreux usagers, professionnels et personnes de l'entourage. Gageons que tout l'engagement de ses membres pourra aboutir à de réelles et beaucoup plus importantes participations citoyennes des usagers. Mais les recettes de la mobilisation n'existent pas. On peut juste suivre son cœur militant. En tout cas, ces différentes expériences nous font penser qu'une réelle formation et qu'une gratification conséquente sont des conditions nécessaires à l'engagement des usagers. En outre, plus les espaces d'expression dans les différentes structures seront accueillantes et nous conviendront vraiment, plus ils pourront susciter de nouvelles vocations.
Merci Yann.
Je vous propose maintenant d'écouter Sabotage des Beastie Boys. Le morceau vient du 4e album studio du groupe new-yorkais Ill Communication en 1994. Le groupe est un pivot entre punk hardcore et hip-hop. Laissons-nous donc aller au Sabotage. Vous êtes de retour avec l'équipe Plus on est de fous. Vous pouvez retrouver un replay de l'émission sur le site de Canal B. Le morceau que vous venez d'écouter s'appelle Sabotage des Beastie Boys.
Tu voulais nous parler des gemmes ?
Pour commencer, je vais vous parler précisément du groupe d'entraide mutuelle ou GEM, l'entre-deux, situé à Rennes, près des Horizons. Ici, on peut s'initier à l'écriture, au théâtre, au sport, à la cuisine et ponctuellement à d'autres activités ou des sorties au bowling, au cinéma par exemple. L'un des atouts de ce GEM est le fait qu'on n'est pas obligé de s'engager pour participer. On peut venir et partir quand on veut. Si tu as besoin d'une pause, tu peux la prendre. Personne ne t'en tiendra rigueur. Si tu veux aller une fois à une activité, tu peux, toutes les deux semaines aussi. Un autre point fort, c'est le café associatif, où on peut discuter de tout et de rien sans se sentir jugé. Pour beaucoup d'entre nous, c'est très bénéfique, parce qu'on peut craindre les regards et le bruit quand on veut aller dans un bar classique. Le GEM l'entre-deux, il est situé près du centre de Rennes et il permet aux adhérents d'avoir une ouverture sur la ville, un pied dans la cité. Pour avoir une vision plus globale, je vais vous proposer quelques éléments de contexte sur les GEM. Les GEM ne sont ni des associations d'usagers, ni des structures médico-sociales. Ils ont été pensés pour offrir des espaces collectifs pour les personnes en situation de souffrance psychique et ou d'isolement social. Vous ne trouverez pas de médecin, d'infirmier, de thérapeute ou tout autre soignant ici, mais plutôt des animateurs. Car là est le rôle essentiel des GEM, favoriser l'inclusion sociale et créer ou maintenir du lien. C'est pourquoi l'essentiel des activités proposées sont socioculturelles. Et on les choisit lors des commissions GEM. Ce sont des réunions ouvertes aux adhérents où chacun peut s'exprimer. Parmi eux sont élus des représentants, les coprésidents. D'un GEM à un autre, leur pouvoir de décision est relatif. Il faut savoir que les GEM ont été créés par une loi en 2005. Pour la plupart, ils ne sont pas nés d'initiatives d'usagers. Pour autant, des usagers ont adhéré aux GEM dès les débuts et se sont investis dans leur phase de construction. Malheureusement, l'ébullition des débuts a le plus souvent fait place à une forme plus rigide. Aujourd'hui, le pouvoir de décision des adhérents est très souvent assez restreint, entraînant parfois des rapports de force difficiles avec les personnes salariées en responsabilité qui usent d'un pouvoir bien plus large que la seule facilitation. Ce qui est paradoxal, car d'après les statuts originels, les adhérents ont tout pouvoir sur toutes les décisions. À notre sens, une autre carence majeure des GEM est que souvent, on n'y trouve pas d'outils de défense des droits des usagers ni de moyens d'organisation. En fait, par les psychiatries et soins, généralement, dans un GEM, c'est un peu tabou. Mais depuis quelques années, on assiste à une phase de transformation vers plus de prise en main et de pouvoir de décision pour nous. En zoomant un petit peu, on peut par exemple évoquer l'initiative « C'est du soin si c'est contraint » qui a vu le jour en 2021 au GEM L'Entre-deux. Malgré des freins, une frilosité à parler d'un sujet aussi sensible qu'est la contrainte, le projet a finalement vu le jour et la parole de plusieurs adhérents a pu enfin trouver un espace d'expression.
C'est vrai qu'on constate une évolution progressive des mentalités. Est-ce que tu peux nous parler d'autres initiatives locales issues d'usagers ?
Oui, je pense au groupe Rennais du réseau des entendeurs de voix, ou REV, et à l'atelier rétablissement du GEM L'Entre-deux. Ce sont des espaces inédits, car autonomes et non mixtes. En fait, tout a débuté en septembre 2022, lorsqu'un atelier rétablissement a été créé pour et par les usagers. Le but est de partager ses astuces, ses savoirs, son vécu, en horizontalité tout en propageant la philosophie du rétablissement. L'atelier a lieu en autonomie, sans la présence des salariés pour que chacun et chacune puisse s'exprimer le plus librement possible et s'emparer du projet. Notre credo, c'est la bienveillance, l'absence de jugement et la convivialité. Mais il ne s'agit pas d'un groupe de parole classique, on fonctionne par thématique. L'un des objectifs est de collecter des ressources qui bénéficient à l'ensemble des adhérents. Les permanences de l'atelier sont les 2e et 4e mardis du mois, de 18h30 à 20h30, dans les locaux du GEM L'Entre-deux, au 14 rue Papieu à Rennes. Toutes les infos sont disponibles sur le site gemlentredeux.net. Au même moment, un groupe du réseau sur l'entente de voix, ou REV, émerge à Rennes. Le REV France est une association nationale qui réunit des groupes de personnes concernées par l'entente de voix ou des expériences inhabituelles. Localement, chaque groupe peut choisir son mode de fonctionnement et la fréquence de ses rencontres. À Rennes, les personnes qui ont initié le groupe ont choisi de fonctionner en non-mixité, c'est-à-dire exclusivement entre personnes concernées. La philosophie du groupe soutient que pour les personnes qui vivent des expériences psychiques inhabituelles, ces expériences peuvent être porteuses de sens. En ouvrant des espaces d'expression et de partage sans jugement, dans le respect des vécus de chacun, se dessine du soutien et la possibilité de s'affranchir des cadres psychiatriques qui trop souvent négligent le contenu de ces perceptions. L'idée est d'apprendre à se comprendre, à vivre avec ses perceptions et à dépasser l'identité de malade pour se définir par soi-même et reprendre le pouvoir sur sa vie. Le groupe REV de Rennes se réunit 2 fois par mois au GEM L'Entre-deux. Vous pouvez les contacter à l'adresse suivante rev.rennes@proton.me rev.rennes@proton.me. Ce mois-ci, vous pouvez aussi retrouver une bibliothèque de livres, brochures, bandes dessinées sur le thème « Soins et communauté », c'est-à-dire globalement sur le lien entre handicap et société. Les documents sont variés, intéressants, militants et disponibles au CRIDEV, proche de la gare de Rennes. vous pouvez consulter les horaires des permanences sur le site du cridev.org. Plus on est de fous, plébiscite l'existence d'alternatives sur un même territoire pour le soutien de nos parcours singuliers. Nous espérons les voir prospérer et en voir de nouvelles germer, malgré ceux qui ne semblent pas vouloir nous voir nous émanciper, prendre du pouvoir et l'espace qui nous revient de droit.
Meryl, tu avais une recommandation à nous faire ?
Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un ouvrage inédit, Barge. C'est un témoignage au format poche, écrit par une certaine Héloïse K. et paru en 2020. Elle a regroupé plus de 30 de ses carnets sur 10 ans de vie, des photos, des extraits de lettres de proches et de son dossier médical dans ce livre. Avec une sincérité brute, elle nous emmène en Erasmus à Berlin, en errance avec elle et à l'hôpital. Après avoir consommé du cannabis, de l'ecstasy, Héloïse K pense être le messie, pourvu d'une mission, propager l'anarchie sur Terre de façon non violente. L'autrice lit des signes dans les couleurs, des voitures, des codes cachés à la radio, entend des voix alors qu'elle est seule. On lui diagnostique une bouffée délirante. En 10 ans, elle en aura 3. On peut se procurer ce livre sur le site de l'autrice, barge.blog.fr, pour la somme de 5 euros. Merci les copains pour vos interventions et recherches sur le thème « Rien sur nous sans nous ». Ce qu'on peut retenir, c'est qu'il y a encore de l'espace à grappiller.
Oui. De l'espace intersidéral.
Vous pouvez retrouver l'émission sur le site de Canal B. Toutes les émissions du collectif Plus on est de fous sont réunies sous l'onglet Plus on est de fous, la carte blanche des usagers de la psychiatrie. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle carte blanche.
Ah, et quand même, on n'oublie pas, rien sur toi sans toi n'est pour toi. Rien sur nous sans nous n'est pour nous. Ciao.
Ciao.
Vous êtes dans l'arène, l'émission d'information locale de Canal B. À l'instant, c'était l'équipe de Plus on est de fous, un projet pour parler santé mentale avec les premiers concernés, les usagers. Donc, on va poursuivre et terminer l'émission du jour avec une recommandation. C'est un mardi de l'espace des sciences consacré au rire. Ça se passe mardi 23 mai à partir de 20h30, comme à chaque fois à l'auditorium Hubert Curien au Champ Libre, en compagnie cette fois de David Le Breton. David Le Breton, il est professeur de sociologie à l'Université de Strasbourg. Et il a écrit de nombreux ouvrages d'études des groupes humains sous tous les aspects, à la fois physiques mais aussi culturels. Et le rire, c'est un phénomène bien humain dont la signification varie selon les circonstances et les lieux. Il s'enracine parfois dans la joie pure, la bonne humeur, mais aussi la détresse, le sentiment de supériorité, la haine ou encore la honte. Bref, on ne peut pas comprendre le rire en l'analysant seulement sous l'angle du risible. Les explications mardi soir avec David Le Breton. On précise que l'entrée est libre dans la limite des places disponibles. Pour plus d'infos, il y a le site espace-science.org. Cette conférence, je ne l'ai pas dit, mais elle est proposée dans le prolongement de l'exposition Rire, une expo à voir jusqu'au 3 septembre à l'Espace des Sciences. Allez, je vous laisse avec un extrait du reportage qui avait été consacré à l'exposition au mois de mars dans cette émission d'info locale. Vous allez entendre la voix de William Lejauny, il est en charge de la médiation.
Et donc, comme je disais tout à l'heure, le rire eh bien, est vraiment spontané, on n'y peut rien. Des fois, quand on rit, vous l'avez peut-être déjà vu, cette vidéo-là, on a un peu de la peine pour lui. Mais,
Les inondations d'une extrême importance ont fait au moins 50 morts dans le centre du pays. Le niveau de la rivière, la Prout, s'est élevé de 5 mètres en quelques heures.
Et donc au niveau biologie, on s'intéresse justement à ce qui se passe dans le corps, pourquoi on en arrive à tomber par terre, à se mettre sur le dos en riant. Eh bien ça vient beaucoup d'un muscle qu'on a dans le ventre, le diaphragme effectivement. Contrairement à ce qu'on peut penser, les poumons ne sont pas des muscles, ils ne vont pas se remplir et se vider eux-mêmes d'air. En fait c'est le diaphragme qui est juste dessous, qui en bougeant, eh bien en allant de haut en bas, en se contractant, va faire que les poumons pourront prendre plus ou moins de place. Et en fait, c'est ça, c'est le diaphragme qui va faire que les poumons vont prendre plus de place et donc aspirer de l'air par notre bouche. Maintenant, quand on rit, eh bien, il y a une sorte d'onde qui va circuler dans notre corps et ça va complètement désynchroniser nos mouvements de respiration classiques. Et en fait, le diaphragme, eh bien, va peut-être faire des allers-retours très rapides. Et c'est pour ça qu'on a du mal, du coup, à reprendre notre souffle. C'est incontrôlable. Une crise de rire, c'est vraiment une crise. C'est-à-dire que, en fait, notre système nerveux le vit comme une crise, c'est-à-dire que quand on rit, en fait, on a des réseaux de neurones en fait, qui se mettent en alerte dès qu'il y a du stress ou un danger, en fait, qui nous prépare à nous mettre en fuite, à courir, etc. Et bien là, c'est exactement ce qui se passe, c'est-à-dire que le cerveau prépare le corps à réagir à un danger. Donc là, c'est du stress qui vient, et donc le cœur va beaucoup plus vite, et chez les personnes qui peuvent être fragiles au niveau cardiaque, ça peut avoir un impact assez dangereux. Heureusement, juste après, il y a le système parasympathique, donc qui, lui, c'est plus réguler et se calmer.
La Reine, c'est terminé. Une émission d'information locale à écouter du lundi au vendredi à 17h, et puis en rediffusion à chaque fois le lendemain à 8h. Pour les podcasts, ça se passe sur le site canalb.fr. Je vous dis à très bientôt sur Canal B.